Il n'y a pas de plus grande injustice que de refuser à un peuple le droit à l'histoire.
Marc Lambron témoigne de François Jacob.
Je crois qu'une existence, c'est l'utilisation du hasard. Quand quelque chose se présente, si on sait l'utiliser et le prendre, il y a une chance qu'il se passe quelque chose. Oui, je pense que j'ai eu beaucoup de hasard et beaucoup de chance.
François Jacob a collectionné les plus beaux titres qui soient. Compagnon de la Libération, il avait gagné l'Angleterre dès la mi-juin 1940. Un quart de siècle plus tard, à 45 ans, professeur au Collège de France à la chaire de génétique cellulaire et prix Nobel de médecine, en compagnie d'André Lvoff, médaillé, lui, de la Résistance, et de Jacques Monod, un ancien de l'armée de l'âtre. Non plus que ses amis, les co-lauréats du Nobel 65, et que ses frères de la France libre, François Jacob n'a jamais voulu accomplir un projet. Le hasard et la chance ont eu une large part. Il disait d'ailleurs de façon encore plus explicite, l'homme pue l'intention, sue le dessein. Il imagine la vie sans cesse dirigée, tendue vers un but comme une flèche. Mais, de même que l'évolution des espèces s'accomplit au hasard, son histoire n'obéit en fait à aucune loi secrète. François Jacob ne s'est jamais dit qu'il serait compagnon ou Nobel. Blessé dans les combats de Tunisie puis de Normandie, sa vie aurait pu s'arrêter très tôt. Après 1968, on lui reprocha une fois de prendre plaisir à être assis au premier rang des cérémonies. Il répondit que cela lui permettait d'étendre sa jambe, sans croire devoir ajouter qu'elle avait été grièvement atteinte après le débarquement. Le 38e fauteuil de l'Académie française, où vient de le remplacer Marc Lambron, ne lui permettait pas même ce petit confort. En fait, toute position assise lui était difficile. Il était de ces hommes qu'on croit arriver et qui sont toujours prêts à repartir.
La marche de l'histoire. France Inter. Jean Lebrun.
Marc Lambron, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été reçu il y a peu à l'Académie française. Vous avez prononcé l'éloge de votre prédécesseur, fauteuil numéro 38. C'était le fauteuil où Valérie devait parler d'Anatole France qu'il détestait. Vous, la situation qui était la vôtre était beaucoup plus facile.
Elle était facile parce que, comment dire, je ne peux pas me comparer à lui. Je ne suis ni compagnon de la Libération, ni Nobel de médecine.
Vous avez les arts et lettres, peut-être?
Sans doute, mais c'est parfois plus difficile, justement, entre gens de lettres, de se louanger. Parce que François Jacob, c'est écrasant, c'est sublime, et c'est une très bonne porte d'entrée pour moi sous la coupole, si on considère que la coupole est un des conservatoires de la mémoire et parfois des gloires françaises.
L'Académie française, avez-vous dit, s'est souvenu d'un jeune provincial qui aimait les livres, ça c'est vous. L'adolescence d'autrefois de François Jacob?
C'est une adolescence parisienne. Par sa mère, il vient d'une famille de devoirs. Son grand-père était un polytechnicien, le premier français juif à être devenu général de corps d'armée. Son père tenait une petite agence immobilière du quartier des Ternes. Donc l'adolescence, c'est le parc Monceau, c'est Condorcet, c'est les Orions contre les militants de l'Action française, c'est la mort de sa mère. Sa mère meurt au début du mois de juin 1940 et la France, il va la quitter 17 jours plus tard. Pour Londres.
Alors c'est en effet un espace très court qui le voit parcourir la France en bicyclette, comme Pierre Messmer l'avait parcouru sur une moto volée, et arriver à Saint-Jean-de-Luz, où sont repliés les débris des troupes polonaises qui ont combattu en France.
Nous avons constaté à ce moment-là qu'il y avait une troupe de soldats français qui se déguisaient en polonais, qui avaient enlevé leurs aiguillons, qui avaient enlevé leurs calots, et qui commençaient à embarquer. Et nous sommes installés derrière. Et juste quand nous sommes arrivés, une barrière de garde mobile est venue s'installer pour empêcher, en principe, les Français de s'en aller. Et devant moi, il y avait un petit type dont il était visible à 100 mètres que c'était un parigot. Et j'ai appris plus tard que c'était un jockey. Et on était derrière, et il avait tellement l'air d'un Parisien que un énorme garde mobile lui a mis la main sur l'épaule. Il a dit « Où tu vas, toi ?» Et l'autre a sorti le seul mot qui ressemble à le polonais qu'il avait dans la tête. Il a dit « Svastika ». Le garde-mobile a regardé complètement scié. Le type est passé et nous sommes passés, mon copain qui s'appelle Roger Dreyfus et moi, on est passé derrière sur le bateau polonais.
Chaque extrait d'interview qu'on donnera de lui ici, elle est avec Henri Roland Coty, c'est une production de l'INA. On verra toujours la même qualité d'ironie vis-à-vis de lui-même, la même distance, jamais une position glorieuse.
Non, ceux qui l'ont connu, moi je ne l'ai pas connu, disent qu'il y avait toujours ce sourire, cette espèce d'ironie comme ça sur les choses importantes, c'est-à-dire de pudeur en fait, sur ce qu'il avait pu faire de grand. Et par exemple, cet embarquement qu'il raconte est gros si l'on veut de futures célébrations, puisque sur le même bateau, mais sans qu'ils se connaissent, c'est Maurice Schumann qui prend place, et sur un bateau polonais jumeau, c'est Robert Gallet. Et 57 ans plus tard, en 1997, c'est ce même Maurice Schumann qui, passant d'un fond de cale d'un navire polonais à la coupole, recevra François Jacob. C'était aussi ça, au fond, la génération des hommes de la France libre.
Quand le Figaro a fait un long compte-rendu de votre réception et de votre discours, c'est curieux, il n'a pas pris le temps d'évoquer ce que vous avez dit de la France libre, du rôle de François Jacob en Afrique, par exemple. Alors on va réparer cet oubli, que j'espère involontaire. Il est à Dakar, il est à Brazzaville, il arrive au Tchad.
Il arrive au Tchad début 1942 et il n'a pas été affecté dans une compagnie de marche, qui était son souhait. On en fait plutôt un médecin de campagne ou un médecin du désert, dans un petit poste qui s'appelle Mao. Et il est médecin pour plusieurs départements, enfin l'équivalent de plusieurs départements français. Donc il s'occupe surtout des escars, il pratique quelques trépanations, il s'initie à la locomotion par dromadaire en étudiant le manuel du méhariste. Et puis, enfin courant 43, il va être affecté à une unité combattante. Et là, ce sont ces magnifiques Français de la Force L, les Français de Leclerc, au fond, soldats revenus de Norvège avec Bétoir, des guerriers Sarah, des coloniaux, des arsouilles de la France libre. Ce mélange de soldats de l'an 2, qui sont les soldats de l'an 43, est le début de l'épopée de ce qu'on peut appeler Jacob l'Africain.
Vous avez dit joliment que le général de Gaulle n'avait pas de followers, il avait des compagnons.
Oui, ça m'amuse, parce que l'idée qu'il faudrait, pour parler français aujourd'hui, à un homme politique, des followers sur ses tweetos ou des spin doctors pour l'encadrer, si vous voulez, le général de Gaulle n'avait pas de conseiller en communication. Et il avait des compagnons et il ne s'exprimait pas par émission de télématique laconique. Oui, c'est-à-dire que ce que disait un peu ce que François Jacob tout à l'heure sur l'aléa, sur le hasard et la nécessité, pour reprendre le titre du grand livre de son ami Jacques Monod, c'est qu'en somme, l'aléa a fait le caractère, en quelque sorte, c'est-à-dire que la trempe a été révélée par les circonstances.
Les circonstances.
C'est ce que disait Ortega y Gasset, je suis moi et ma circonstance. Et bien sûr, il y a une circonstance, Jacob, qui est aussi une circonstance de mémoire française. Et ça, c'est ce que disait, je l'ai cité dans mon discours, Romain Gary, qui parle des hommes de la France libre en disant « Nous ne tenions au fond qu'à coup de littérature, comprenez, tout ce que les Français savent se raconter sur eux-mêmes depuis des siècles, de Jeanne d'Arc à Napoléon ». Et je dirais que le privilège des derniers héros de cette génération de notre histoire, c'est précisément qu'ils ont inscrit leur geste dans une histoire de l'héroïsme français, qui est une histoire pérenne, sans avoir trop conscience qu'ils le faisaient. Je dirais que l'évaluation ou l'appréciation de l'héroïsme a été rétrospectif. Eux, c'était des jeunes gens qui avaient 20 ans, qui étaient en première ligne, qui se sont battus, qui ont été blessés, et très cruellement dans le cas de François Jacob.
Et puis, qui sont morts, c'est la faute à pas de chance. Vous évoquez les quelques kadiches qui parfois résonnaient sur les tombes du désert, parce que le Tchad, le sud de la Tunisie, c'était le désert avec des cadavres de bêtes et d'hommes ici et là. Et parmi eux, morts un peu bêtes, ils veulent dire François Jacob, Roger Dreyfus, vous savez, le copain avec qui il avait embarqué à Saint-Jean-de-Luz.
Roger Dreyfus, lui, avait fait l'école d'officier de Brazzaville, dont j'étais plus ou moins médecin. Et ensuite, quand j'ai été nommé, moi, à Mao, ou affecté à Mao par le général Cissé, lui a été affecté à Moussoro, qui était à peu près à 200-300 km de Mao, où il avait une section de tirailleurs. Et un jour, on a appris qu'un groupe de Noirs avait volé des vaches à un autre groupe. il a été chargé d'aller récupérer les vaches. Il est parti avec sa section, lui était à cheval, il est parti devant, et un des Noirs, embusqué derrière un bosquet, lui a flanqué une sagaie dans le cœur, il a été tué comme ça, d'une sagaie dans le cœur, ce qui est vraiment le comble de la bêtise, de venir mourir comme ça. Et ça a été d'autant plus tragique que son frère aîné, qui s'appelait Jean, qui était à Alger, au moment du débarquement américain, vous savez que les Américains étaient en liaison avec la résistance d'Alger, Jean Dreyfus faisait partie de cette résistance d'Alger, et il a été chargé, au moment du débarquement, il a été chargé d'occuper la poste. Et le matin, un escadron du 5e chasseur d'Afrique d'Alger, qui était un régiment très vigiste, est venu s'installer devant la poste. Jean Dreyfus est sorti pour discuter avec l'officier qui commandait le détachement. Puis il a tourné le dos, il est reparti vers la poste, et à ce moment-là, un adjudant du 5e chasseur a sorti son revolver et lui a tiré 3 balles dans le dos.
Systématiquement, il racontait ce genre d'histoire. Quand on parvient à l'honneur suprême d'être compagnon de la libération, on pense d'abord à ceux qui sont morts.
Oui, je crois que c'est cet homme qui a été au fond un explorateur, un voyageur de la vie, du décryptage et de la connaissance du vivant, portait en lui bien évidemment la mémoire, et de plus en plus, m'a-t-on dit, à la fin de sa vie, des visages de ceux qui l'avaient accompagné et qui n'étaient plus, mais qui étaient en lui. Et que d'ailleurs il a inscrit dans son livre de souvenirs, enfin dans ses mémoires, la statue intérieure, où en effet les figures que nous venons d'évoquer, notamment les frères Dreyfus, sont évoquées.
De même que quand vous êtes reçu à l'Académie française, je fais un pas de côté, vous pensez à votre frère qui est mort.
Oui, parce que je pense aussi qu'il y a des existences où on vit pour deux. Et moi, si j'ose dire, je n'ai perdu qu'un frère, mais lui en avait perdu des dizaines de frères de combat. Il disait que sur les 20 officiers d'une compagnie de marche qu'il avait connue en 1940 à Dakar, 3 seulement étaient survivants, vivaient encore à la fin de la guerre.
Première blessure, c'est Tunisie 43. Alors, on aurait pu reprendre le passage où il évoque le débarquement, 1er août. C'est toujours avec beaucoup d'ironie parce qu'il note que maintenant la place est libre, on peut débarquer en masse. L'afflux de bateaux, ça ressemble au boulevard de Péra, mais son capitaine est complètement saoul. Et il perd le chemin malgré le fait que tout le monde l'accompagne. Alors ça, c'est l'aspect drôle qu'il ne manque jamais de mettre en avant. Et puis le 8 août 1944, là, c'est beaucoup moins drôle.
8 août 44, il est en route vers Le Mans, qui est une ville, donc il est rattaché à l'armée Patonne, 2e DB. Et Le Mans, qui est une ville d'ailleurs où son grand-père général avait exercé un commandement militaire. Et puis là, la colonne où il se tient est prise sous le feu d'avions allemands, de Junkers. Un de ses amis officiers, lieutenant, reste blessé sur la route. Et Jacob, qui aurait pu regagner le fossé et s'y protéger, couvre de son corps ce jeune lieutenant et au deuxième passage des avions, il ressent un choc au côté droit, et il s'évanouit, il se réveillera dans un hôpital de campagne, le lieutenant est mort et lui il a une 60aine d'éclats de bombes dans le corps.
Dans la jambe en particulier, mais les mains aussi sont atteintes, alors vous le décrivez avec un plâtre qui lui en serre le thorax et un bras, un autre plâtre qui va du bassin à la jambe droite. Il sera libéré de l'hôpital en avril 45. Il aura vu la victoire, mais il n'aura pas vu la libération de Paris, certes.
Non, il en conservait un regret, sinon une amertume. Il a passé ensuite 7 mois au Val-de-Grâce, allant d'opération en opération. Et les handicaps qui résultent de ses blessures lui interdisent d'être chirurgien, ce qui était sa vocation, parce qu'il n'avait plus la motricité requise. Et donc, la fin de la guerre, c'est aussi pour lui le début des questions. Que faire? Et là, il envisage il est tout à fait bel homme, il a envisagé d'être acteur, par
exemple. C'était le type d'homme qui n'avait pas de type de femme.
Ça, c'est ce que Eric Orsona a cru vouloir dire de moi.
De vous, ah bon?
Oui, plutôt, mais ne me confondez pas.
Orsona qui a répondu oui, à l'Académie française.
Qui a répondu. Il a même envisagé de faire l'ENA, qui était à peine créée.
Et vous,
C'est-à-dire qu'il a...
Et vous aussi.
Lui, il dit que 3 pages d'un manuel de droit administratif ont suffi à l'en dissuader, alors que moi, je suis au Conseil d'État qui s'occupe justement de droit administratif.
Alors, on va en venir à la deuxième partie de sa vie. Quand même, poser la question centrale, pourquoi cet homme a la conduite si héroïque, va-t-il être le même qui s'ingénie à percer les secrets du vivant? Ça, c'est une énigme.
À la fois, c'est une énigme, mais une fois encore, une circonstance. La circonstance, c'est que quand ce jeune médecin arrive à Pasteur, où il est embauché par Lvov, la question de l'hérédité est centrale, et la question de la vie, je pense qu'elle est aussi centrale pour un survivant héroïque de la Deuxième Guerre mondiale.
Moi, j'espérais que vous nous permettrez, Orsena a dit que vous alliez introduire le rock sous la coupole, de passer, je sais pas, moi, Patti Smith, que vous avez réussi à citer, Marc Lambron, dans votre discours. Mais vous avez tenu à Fantasia de Walt Disney. Enfin, c'est la toccata et la fugue en ré mineur de Bach, mais interprétée d'une manière un peu particulière. Mais vous tenez à ça?
Non, je vous ai demandé...
Parce que ça illustre le thème de la naissance du monde, selon vous.
Oui, c'est-à-dire que dans la raison, c'est que... Là, je parle du Sacre du printemps, dans Fantasia.
Ah, c'était ça que vous vouliez.
C'était ça que je voulais, mais vous aimez la toccata. Non, parce que le Sacre du printemps de Stravinsky, donc 1913, le Sacre du printemps, au début, enfin, dans le dessin
c'est
animé...
C'est la naissance de la vie.
C'est la naissance de la vie. Et donc, il y a une espèce de ballet de bactéries, qui anticipe d'ailleurs sur la découverte de l'ADN, qui est de 1944.
Oui, mais là, vous voyez ce que la toccata va donner peut-être un peu la même impression.
Je vous dirai une chose après.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Marc Lambron, qui a succédé au 38e fauteuil de l'Académie française au professeur François Jacob, témoigne de son prédécesseur. Bah, ça fait quand même, là, ce qu'on vient d'entendre, un peu orchestration des gènes, vous voyez, construction de la naissance du monde. Fantasia, ça date de...
Bach est très comme ça, biologique, si on veut dire, musicalement.
Presque autant que Stravinsky.
Ça, c'était quand même assez intéressant et presque émouvant, parce que Fantasia sort sur les écrans américains en 1941. C'est à peu près le moment où Jacob doit être à Brazzaville avant d'être nommé au Tchad. Et il y a cette espèce d'allégorie en dessin animé sur la naissance de la vie. Et je pense à cet homme qui ne sait pas encore qu'il va être le grand biologiste. Mais déjà, quelque part, sur des écrans, il y a ce ballet de protozoaires qui pourrait annoncer quelque chose de sa vie future.
Mais d'ailleurs, il a souvent, ou au moins une fois, été inspiré par le cinéma pour une recherche.
Oui, c'est-à-dire qu'il il allait beaucoup au cinéma, il est très cinéphile, et c'est sûrement un des crédits qu'on peut faire au cinéma français, c'est que les mauvais films ont la vertu de faire penser à autre chose. Donc le film n'était pas très bon, et en le regardant avec sa femme, il a pensé que deux types de recherches séparées qui étaient en cours, d'une part avec Lvov, d'autre part avec Monod, étaient en réalité deux aspects d'une même découverte possible, ce qui fut assez vite confirmé en laboratoire.
Alors, allons-y avec méthode. Lvov, alors, il va chercher les bonnes adresses. Il y a eu Londres, et maintenant, c'est l'Institut Pasteur. Voici comment il évoque les démarches, d'abord infructueuses, qu'il fait auprès de son aîné, le professeur Lvov. Il parle au micro de Jean-Louis Hésine.
Je ne savais rien, j'avais aucune expérience. Il n'y avait pas tellement de raisons, si ce n'est que j'étais un petit morceau, si ce n'est que j'étais parti faire la guerre, mais il n'y avait pas tellement de raisons de me prendre dans un laboratoire, sauf celui qui était alors le directeur de l'Institut Pasteur, qui s'appelait Trefoil, qui était un des inventeurs des sulfamides. Alors lui m'a donné une bourse et m'a permis d'entrer à l'Institut Pasteur. J'avais une idée à peu près du genre de recherche que je voulais faire. Je savais aussi qu'il y avait un très bon laboratoire ici et je voulais beaucoup y entrer. Et c'était celui d'André Lvov, où travaillait Jacques Monod. Et je suis venu voir Lvov qui m'a dit qu'il n'avait pas de place. Puis je suis revenu régulièrement pendant un an. Puis un beau jour, il avait fait une découverte très importante. Je suppose que ça l'a mis de bonne humeur. Alors, il a décidé de me prendre. Mais je pense que si j'avais été à sa place, moi, je ne serais pas pris.
Oui, vous entendez, moi je suis très très ému par la voix de Jacob, parce qu'il y a la simplicité, il y a l'élégance, il y a l'intelligence, ça va vite, il y a l'ironie, et puis il y a quelque chose d'un peu parigo, il y a un fond d'accent d'un petit parisien de la plaine Monceau, comme ça, et voilà.
C'est une science si nouvelle, la biologie, dit-il, comme d'ailleurs la physique, qui renouvelle complètement ses modèles à cette époque d'après-guerre, qu'un ignorant comme moi peut trouver sa place.
Oui, il a dit ça assez modestement, il s'est révélé assez vite brillantissime, mais c'est sûr que c'était une science en fusion, si l'on peut dire. C'était la décennie chaude, on peut dire que 1955-1965, le Nobel étant son Nobel est de 65, c'est le moment justement où l'ADN, la structure moléculaire de l'ADN est décryptée par Watson et Crick, ça c'est 54, avec tout ce qui va s'en suivre, et sur les 10 prix Nobel ayant couronné des biologistes depuis la création du prix, 8 sont décernés entre 1955 et 1965. Donc il dira qu'il avait eu l'impression, comme à Londres, de frapper à la bonne porte.
Mais je vous écoute avec intérêt. Vos enfants aussi qui assistaient à votre discours de réception vous regardaient avec le sourire parce qu'ils vous avaient offert un cahier de vacances de sciences de la vie et de la Terre pour préparer votre discours.
Oui. Ils ont été effrayés, évidemment, par cette succession. Nous avons déjeuné deux jours après. Ils m'ont dit, on va t'offrir un cahier de vacances avec l'exercice de SVT, parce qu'ils pensaient que j'avais besoin de ça. Et j'espère, j'ai dit dans mon discours, qu'ils me donnent au moins la moyenne sur la foi de mes efforts.
Messieurs et mesdames, avez-vous dit, vous allez constater que vous n'avez pas recruté en ma personne un spécialiste de l'induction du prophage. Parce que c'est la question que pose Lvov au jeune François Jacob. Vous êtes disposé à l'induction du prophage?
Pas plus que lui, si j'ose dire. C'est peut-être le seul point sur lequel je me comparais. Enfin, en tout cas, pour le Lvov de 1945-1946. En effet, Lvov, qu'il avait vu plusieurs fois, il avait été conduit plusieurs fois, lui dit « Est-ce que vous seriez intéressé par l'induction du prophage ?» Et Jacob, qui ignorait tout de ces deux termes, enfin, ou la combinaison de ces deux termes, induction et prophage, dit « C'est juste ce que j'aimerais. »
Oui, parce que le sujet, c'est les relations entre les bactéries et les provirus qu'elles abritent.
Absolument. C'est la problématique générale, c'est la logique du vivant, c'est la décomposition des composants cellulaires de la vie. D'où le fait que, comme il le dit lui-même, Jacob va devenir un gourou du sexe bactérien. Ce sont les bactéries qui ont l'avantage, à partir d'une seule, de produire quelques milliards d'unités en quelques heures. Et puis, il y a le microscope électronique. Au fond, la science est aussi la rencontre d'une circonstance et d'une technique, et ça va aboutir à cette découverte.
Il faut trouver des métaphores simples, dit toujours François Jacob. Alors, vous en avez trouvé une. Au fond, nous sommes parents de la reine d'Angleterre et de beaucoup de bactéries.
Oui, c'est-à-dire que jusqu'au début du XXe siècle, on pensait que, si vous voulez, les escargots avaient de l'ADN d'escargot et les chèvres de l'ADN de chèvre. Or, la découverte de la biologie moléculaire dans les années 50-60, c'est qu'il y a des invariants ou qu'il y a des constants dans le vivant. Autrement dit, Monod disait ce qui est vrai pour la bactérie, il est aussi pour l'éléphant ou pour votre belle-sœur. Donc on peut dire que nous sommes en cousinage, en effet, en cousinage cellulaire avec la reine d'Angleterre, mais aussi avec d'autres espèces moins titrées, certes.
Alors Monod faisait partie du laboratoire de Lvov. Avec Monod, à partir de 1958, c'est plutôt un travail sur les distinctions entre les types de gènes, la manière dont ils s'orchestrent, comme j'essayais de le dire maladroitement tout à l'heure.
Absolument. Le Nobel a récompensé les travaux sur les gènes opérateurs. Monod disait que c'était au fond comme une gare de triage. C'est-à-dire qu'ils avaient découvert les mécanismes par lesquels une sorte de chef de gare cellulaire distribue, selon les besoins variables de la vie cellulaire, un certain nombre de substances, avec notamment ce qu'on appelle l'ARN messager, c'est-à-dire un agent de communication entre le cœur entre la cellule et son cytoplasme. Ce qu'ils ont découvert, c'est ça, ce sont des interactions internes à la cellule.
Et en 1965, pour ce travail à trois, C'est le prix Nobel. Alors, il y avait à l'époque des reporters de la radio nationale qui observaient les impétrants qui claquaient de la semelle en attendant le souverain suédois.
Guy Laval à Stockholm. Eh bien, la cérémonie se poursuit ici à la maison des concerts. Et vous entendez actuellement un nocturne de la suite du roi Christian II, du compositeur finlandais Jean Sibelius, en attendant justement que les trois lauréats français, les lauréats du prix Nobel de physiologie et de médecine, reçoivent des mains du roi Gustave VI Adolphe leur médaille d'or et leur diplôme. Les trois lauréats français écoutent attentivement la musique. Ils sont un petit peu tendus, mais pas trop. Ce matin, ils ont déjà répété. Et ma foi, ça s'est bien passé. Tout le monde s'amusait beaucoup. Sauf le prix Nobel de littérature, Sholokhov, qui a pris la répétition très au sérieux.
Il faut dire que Sholokhov, plus tard, a été accusé de plagiat, donc il prenait les choses très très au sérieux quand il observait les situations extérieures.
Oui, et puis il était un peu stalinien, alors que les pastoriens avaient dénoncé Lysenko dans les années... Alors oui, ça c'est la remise, c'est dans le décembre 1965 à Stockholm, au cours de la soirée, les trois savants dansent avec la princesse, je crois c'est Christina de Suède, et en image subliminale, décembre 65, c'est l'affaire Ben Barka. En France, il y a le début de cette affaire convulsive.
Oui, et quelle est le rapport.
C'est tout, c'est juste comme ça une notule temporelle. C'est que,
ah bon,
c'est que
puis il y avait Adamo qui chantait, puis François Hardy. Et...
Oui, ça c'est assez curieux. J'avais relevé qu'en 65, au Hit Parade, pour parler en bon français, les jeunes chanteurs français ou populaires, parce qu'au fond, Adamo était belge, Adamo chantait La Nuit, Johnny Hallyday chantait Quand revient la nuit, et François Hardy chantait La Nuit est sur la ville. Et dans mon discours, j'ai dit que peut-être que ce mot nuit n'avait peut-être pas tout à fait la même acception, la même résonance pour des jeunes gens qui avaient 20 ans en 65 et pour un homme qui avait eu 20 ans en 1940.
Je ne vais pas vous faire raconter, parce que ce serait un pas de côté de trop, l'attente de l'impétrant, les pièces qu'il doit traverser, je parle de l'impétrant académicien. Cependant, vous dites... Il y a à Paris, sur les rives de la Seine, un palais de l'Institut, comme il y a d'autres institutions non loin de la Seine, le Conseil d'État, on ne va pas toutes les citer. En ces temps où l'idée de nation revient comme un refoulé, il n'est pas inutile de reconsidérer ces exceptions.
Oui, je crois que la France est à la fois c'est une idée et ce sont aussi des monuments. Et il est très étrange et singulier et assez beau que là où il y avait un régent... Et les soupers fins de Philippe d'Orléans, il y a maintenant une juridiction. Au fond, les bâtiments servent toujours et abritent toujours quelque chose d'un légendaire français. Et que cette coupole, elle abrite une institution qui a été fondée il y a 372 ans, je crois, par le cardinal de Richelieu, et qui perdure comme un lieu de mémoire, comme dirait Pierre Nora.
Si, d'aventure, notre ami Mathieu Vidard, qui va suivre la musique de notre générique, est à l'écoute...
Oui, je suis là, Jean.
On va vous avoler un sujet, là, François Jacob. Mais
on
François Jacob
oui.
disait l'œuvre scientifique doit être lisible, la science doit être publique, ou sinon elle s'avilit. C'est un peu le programme de la tête au carré, non ?
C'est l'esprit, en tout cas, sur cette vulgarisation. Et puis, nos invités, dans un instant, pour parler de pas mal de sujets, nous irons, par exemple, rencontrer un député anglais qui a décidé de mettre les parlementaires français à la méditation, Jean.
Ah, vous croyez que c'est extrêmement scientifique ?
Ah oui, vous allez voir, il y a des bonnes études là-dessus.
Merci à vous, Mathieu.